Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les nuits de France Culture.
Le Grand Nord, terre de fantasmes, désert inversé, immensité blanche et glacée, dont les secrets obsèdent les êtres humains. On pense bien sûr aux premières expéditions polaires, celles de Robert Peary et Matthew Henson, en 1909, qui aujourd'hui semblent relever du miracle. Avec un matériel inadapté, des connaissances plus que limitées, c'est une détermination sans faille pour aller aux portes de l'inconnu qui a poussé ces explorateurs à aller défier la mort. Mais l'exploration qui se mue en conquête du Grand Nord n'est pas innocente. Ce sont des terres que les nations se contestent et qui sont au centre de multiples enjeux stratégiques. Celles des ressources naturelles qui s'y trouvent, par exemple. On y mine du phosphate, de la bauxite, du minerai de fer, du cuivre, du nickel ou encore du diamant. Il y a aussi bien sûr du gaz naturel, et surtout du pétrole. Mais il y a également un enjeu scientifique. L'Arctique devient un laboratoire à ciel ouvert pour les expériences autour des froids extrêmes. Pour toutes ces raisons, la fin des années 40 voit naître une ruée vers le Grand Nord, où les stations et les installations en tout genre pullulent. Dans ce numéro de la Tribune de Paris de Paul Guimard, l'ingénieur et journaliste André Labarthe, les explorateurs Paul-Émile Victor et Edmond Tranin, et l'écrivaine et femme politique Louise Weiss débattent des raisons de cette colonisation économique et scientifique de l'extrême nord, entre gains épistémologiques et enjeux géopolitiques. Une émission diffusée pour la première fois le 5 novembre 1947 sur la chaîne nationale.
Tribune de Paris.
Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Que le plus court chemin d'un point à un autre soit vraiment la ligne droite, les régions polaires arctiques vont en fournir la preuve. Nœuds de communications aériennes en temps de paix et, si la guerre éclatait, zone stratégique de première importance, le Grand Nord préoccupe maintenant les économistes, les aviateurs, les généraux.
C'est du Grand Nord, dont ils reviennent pour la plupart, que vont vous parler ce soir
Pierre Gallois,
André Labarthe,
Edmond Tranin,
Paul-Émile Victor
et Louise Weiss.
Paul Guimard va mener le débat.
Eh bien, nous voudrions vous demander au début de cette conversation de nous expliquer les raisons de cette espèce de ruée vers le Grand Nord à laquelle nous assistons pour le moment, tout au moins en imagination. Paul-Émile Victor.
Mais vous me permettrez auparavant de poser une question. On parle de Grand Nord, qu'est-ce qu'on entend exactement par Grand Nord?
Bon, alors chapitre des définitions. Louise Weiss.
Pour moi, c'est le toit du monde. Et on y descend parce que tous les fleuves descendent vers le Nord.
Si vous me permettez, madame, je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Le toit du Nord, cette définition-là vient essentiellement de l'orientation de la carte qui est absolument et entièrement arbitraire. Et pour moi, le Grand Nord n'est pas le toit du monde, mais est le centre du monde. Et si tout à l'heure nous en avons le temps, je me permettrai de dire pourquoi je dis le centre du monde.
Pierre-Richard Gallois.
Bien, je pense que l'espace aérien arctique pourra devenir un front dans l'avenir et, nous le souhaitons auparavant encore, un lien, parce que à partir du moment où l'espace aérien soviétique s'ouvrira, deviendra perméable aux lignes aériennes, il sera intéressant d'emprunter des circuits, des orthodromies passant par le cercle arctique, et en particulier par le pôle.
Par conséquent, pour vous, c'est d'abord une espèce de trait d'union pour le moment.
C'est un trait d'union pour le moment. Oui.
Mais alors, il serait intéressant d'essayer d'abord de situer géographiquement le Grand Nord, enfin d'expliquer ce qu'on entend géographiquement par le Grand Nord, ou ce que vous entendez, vous, Paul-Émile Victor.
Eh bien, la raison pour laquelle j'ai dit le centre du monde, la voici. Si on enlève un globe de son axe et que l'on mette le pôle Nord devant soi, on s'aperçoit que le pôle Nord est au milieu d'une toute petite mer qui s'appelle la mer Arctique, qui est à peine 5 fois plus grande que la Méditerranée, et que tout autour de cette mer Arctique, il y a les grandes masses de terre comme le continent eurasiatique, c'est-à-dire le continent formé par l'Europe et l'Asie d'une part, et le continent américain d'autre part.
André Labarthe.
Moi, je crois, vous savez, que le Grand Nord, c'est aussi, à certains points de vue, du point de vue scientifique et du point de vue technique, un superbe laboratoire. Un superbe laboratoire qui vient de s'ouvrir depuis quelques années à cause des définitions qu'on a données aux armes techniques, ou plutôt aux techniques qui deviennent des armes, et que malheureusement, très souvent, on emploie pour la lutte de peuple à peuple et d'intérêt à intérêt.
Bon, alors maintenant, il serait intéressant de déterminer les raisons de cet intérêt tout de même assez subit, et en tout cas général, que l'on porte au Grand Nord. Paul-Émile Victor.
Je crois qu'on peut d'abord dire que cet intérêt vient de ce que l'on a réalisé, par exemple, et en particulier que la Terre est ronde. Jusqu'à présent, ou jusqu'à quelques années, on se figurait que l'Arctique était loin de toutes les routes, le toit du monde en particulier, en dehors des cartes, parce qu'on regardait des cartes planes. Vous me direz que c'est une marotte, c'est en effet une marotte, car si on regarde une carte, on se demande quel intérêt peut avoir l'Arctique, tandis que si on regarde un globe, c'est-à-dire si on se reporte à la forme réelle de la Terre, on s'aperçoit que cet Arctique se trouve justement entre les deux grandes masses dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette position géographique étant définie, il en découle toutes les conclusions d'intérêt ou désintérêt qu'on peut y porter. Et si je peux me permettre de donner en tout cas trois points de vue, il me semble qu'il y a trois intérêts que l'on peut voir dès maintenant pour l'Arctique. Un premier intérêt qui est un intérêt économique, qui peut se diviser en deux, je crois que Tranin aura en ajouté un autre, intérêt économique de l'aviation, des lignes d'aviation et intérêt économique des minerais rares, aussi bien or, argent que minerais radioactifs. Deuxièmement, intérêt stratégique, justement par la proximité des deux grandes masses de terre dont j'ai parlé. Et troisièmement, intérêt scientifique pur.
Edmond Tranin.
Eh bien, Paul-Émile Victor parle de l'intérêt scientifique, mais on a parlé d'aviation, on a parlé de minerais rares. Mais tout cela, c'est tout de même quelque chose d'un petit peu trop riche. Il faut voir aussi le point de vue pratique, économique. Et quand je dis économique, je parlerai tout de suite des transports. Vous n'avez pas parlé, Victor, et vous, François, vous n'avez pas parlé de la mer. Vous avez bien dit que c'était une Méditerranée. Cette Méditerranée a été bloquée par les glaces pendant des milliers d'années. Or, toutes les expériences faites jusqu'à ces 20 dernières années plus exactement, se sont terminées par des échecs. Actuellement, par l'océan polaire, l'océan sibérien, comme disent les Russes, on peut pratiquement et économiquement faire passer des flottes commerciales et, en attendant de pouvoir transporter économiquement, avec des avions, comme vous le disiez, François, il y a possibilité déjà de faire des transports maritimes. Quand vous voyez la carte de Sibérie, alors je reviens à la carte plane. Quand vous voyez la Sibérie, vous voyez 9 grands fleuves qui descendent en râteau vers le nord, drainant toutes les richesses du centre Asie, de la Transbaïkalie ou des mines, des bassins miniers, de l'Altaï, etc. Les Russes, après la Révolution, ont utilisé les 115 000 km de voies navigables pour faire descendre toutes ces richesses vers la mer Arctique. Le long de la côte, ils ont construit des ports et maintenant des flottes de cargo pacifique et économiquement, viennent recueillir toutes ces richesses pour les transporter à travers le monde. Et c'est ainsi qu'on parle déjà d'une voie qui, dans 2 ans, serait tout à fait mûre, tout à fait au point, organisée scientifiquement, pour en quelque sorte faire concurrence pendant quelques mois de l'année, pendant l'été arctique, un été qu'on pourrait d'ailleurs prolonger scientifiquement, drainer toutes les productions qui auparavant faisaient 25 000 km pour venir de la Baltique à Vladivostok, en passant par le tour du monde, par le canal de Suez, etc.
Pierre-Richard Gallois.
Au point de vue aérien, je disais tout à l'heure que le front arctique pouvait se développer. Monsieur André Labarthe ne me contredira pas quand j'affirme que je puis dire que ça n'est pas immédiat, parce que les armes capables d'être utilisées dans une région pareille, sur de telles distances, n'existent pas encore. Au point de vue économique, l'utilisation de l'avion dans ces régions est liée d'une part à l'installation d'une infrastructure et d'autre part à l'évolution de la technique, du matériel aérien lui-même. Il est certain qu'économiquement, avec le développement des appareils à grand rayon d'action, on a intérêt à sauter des étapes et à relier par exemple San Francisco aux Indes directement en passant par la calotte polaire. Mais ceci suppose l'installation d'une infrastructure, et cette infrastructure est en train de s'édifier tous les jours. Il existe déjà en Sibérie près de 200 poststations radio, du côté du Grand Nord américain, une quarantaine, peut-être même plus, stations radio et météo permettent aux avions de se diriger avec précision. Et récemment, à l'occasion de leur dernière expédition, les Américains ont installé une couverture, un quadrillage hyperbolique de l'espace qui permet aux avions de se situer avec précision. C'est ainsi que, à 3000 ou 4000 km même des émetteurs qui sont dans la région de l'Alaska, un avion peut se situer avec une précision de l'ordre de 1800 mètres. C'est un progrès énorme parce qu'il y a seulement 2 ans, lorsque un équipage britannique avait traversé la zone arctique et contourné le pôle Nord, il avait été obligé de naviguer presque entièrement à l'astronomie, ce qui donne une précision infiniment moins grande, évidemment, et qui est sujette aux conditions atmosphériques.
Paul-Émile Victor.
J'ajouterai à Prescadi Gallois que l'application de ce quadrillage permet aujourd'hui aux avions météorologiques américains de faire tous les jours un vol météorologique au-dessus du pôle Nord, partant de l'Alaska, survolant le pôle Nord, atterrissant à Thule au Groenland et vice-versa.
Et d'ailleurs, j'ai vu le général commandant le territoire de l'Alaska et il m'a dit qu'une heure après la visite de ses avions au pôle, Washington était au courant du temps qu'il y faisait. Et ce temps conditionne la météo du Nord Atlantique et du Nord Pacifique.
C'est beau, c'est très long une heure, parce que par la radio, vous savez, c'est extraordinaire.
Enfin, vous êtes bien ambitieux.
Oui, mais
enfin, quoi qu'il en soit, et malgré tous ces perfectionnements, ça n'est pas encore demain que les lignes aériennes commerciales passeront par le pôle.
Certainement pas. Il y a des problèmes qui se posent tous les jours. C'est ainsi qu'au cours d'une expédition récente, les aviateurs ont rencontré des difficultés nouvelles. Par exemple, givrage excessif et bris des antennes. Question de pressurisation également. Brume entraînant le givrage. Givrage de l'astrodome, rendant la navigation difficile. Affaiblissement soudain des communications radio sur haute fréquence. Obligation d'utiliser la moyenne fréquence. Très mauvaise émission et audition en très haute fréquence. Bref, des difficultés qui ne sont pas courantes dans les latitudes normales et qui imposent des expérimentations et des progrès encore très importants.
Bien, alors, il est une question que jusqu'ici nous n'avons pas encore abordée, c'est l'intérêt stratégique du Grand Nord. André Labarthe.
Vous savez, l'intérêt stratégique, je crois que tout le monde le comprend, c'est un intérêt stratégique de l'heure, c'est chaque fois que l'on parle d'une guerre éventuelle, d'une guerre possible, chaque fois que les alarmistes, que les défaitistes parlent d'une guerre. Eh bien, les gens les moins avertis aux questions de l'extrême nord vous parlent d'une guerre par le pôle nord. Ils imaginent très facilement des blitzkrieg passant par le Groenland, l'Islande, le pôle nord. Ils voient parfaitement des soldats se battant avec des tanks, des batailles d'avions, une ligne Maginot, et tout ça c'est de la fantaisie pure, n'est-ce pas? C'est une fantaisie même assez grossière, parce que je crois que le pôle nord, aussi bien du côté russe que du côté américain, est avant tout un laboratoire. Qu'il soit stratégique à certains points de vue, tout laboratoire est stratégique. Aujourd'hui, dans les temps modernes, même un monsieur qui fait de la biologie peut parfaitement faire de la biologie en imaginant qu'il va empoisonner ses semblables en faisant une guerre microbienne. Pasteur est très près d'un assassin dans les temps modernes, parce que les hommes sont fous. Alors le pôle Nord, qui est un laboratoire, devient aussi un petit cabanon de fous.
Enfin, c'est le berceau de la bombe.
Oui, mais non, c'est pas tout à fait le berceau de la bombe. Le minerai d'uranium se trouve à Port Radium.
Oui.
Mais au Canada, n'est-ce pas? C'est pas encore l'extrême nord.
Ah, c'est sous le cercle polaire.
Oui, en fait, c'est sous le cercle polaire. Le cercle polaire est bien au-dessous du nord de la Norvège. Hammerfeld, qui est la ville la plus haute du monde, je crois, Tromsø, sont bien au-delà du cercle polaire. Et les avions réguliers norvégiens vont tous les jours au-delà du cercle polaire. Et Port Radium n'est pas un des points extrêmes.
Oui, mais malgré tout, si le Grand Nord ne présentait qu'un intérêt stratégique, disons mitigé, on comprendrait mal pourquoi les grandes nations lui portent un intérêt aussi pressant.
Ah oui, mais parce que vous savez, les grandes nations sont extrêmement vigilantes, et c'est une porte ouverte au fond, n'est-ce pas? Dès qu'il y a un territoire qui n'est pas encore sous la dépendance de quelqu'un, dont on ne possède pas exactement toutes les possibilités, qu'on n'a pas jalonné de système défensif ou offensif, c'est une porte ouverte sur un continent. L'Amérique est protégée par les mers et a peur de se faire tomber par quelque chose sur la tête.
Edmond Tranin.
Oui, mais c'est donc qu'on admet a priori un danger, un conflit. Or, pour ma part, le peu que j'ai vu de l'Arctique soviétique au cours de quelques expéditions à bord de brise-glace soviétique m'a permis de croire qu'il y avait simplement de la colonisation, au bon sens du mot. Souriez pas quand je dis au bon sens du mot.
Ah non, mais je ne souris pas du tout, je suis tout à fait d'accord, je ne suis pas du tout un monsieur actuellement qui essaie de prêter aux autres des intentions qu'ils n'ont pas.
Toutes ces îles qui ont été découvertes dans les années 30, 31, 35, les îles Visées, l'archipel de l'extrême nord, qui est la terre du nord-est, maintenant se trouvent exploitées, mais exploitées pacifiquement. Des mines ont été mises à jour, des mines variées. Et des bateaux viennent maintenant transporter tout ce qu'on extrait. Il y a à peu près 2 millions de Russes actuellement en qualité de colons dans le nord de la Sibérie et dans les îles de l'océan sibérien.
Alors revenons, si vous le voulez, aux possibilités scientifiques.
Ah oui, mais ça n'empêche que c'était déjà en 1907 au nom de la politique d'équilibre des puissances dans le Pacifique, qu'on avait empêché les projets d'une ligne de chemin de fer qui devait passer sous le détroit de Bering et relier le transsibérien au système ferroviaire américain de se faire. Il y avait déjà rivalité dans ce temps-là.
Paul-Émile Victor.
Je voudrais me permettre de reprendre un mot que vous avez dit, Mme Louise Weiss, disant que c'était le berceau de la bombe atomique. Ça n'a pas grand-chose à voir avec cette discussion. Cependant, il est intéressant de dire que quand on parle d'uranium ou de minerais radioactifs, on pense immédiatement à la bombe atomique. Je crois que c'est une profonde erreur. Il y a un exemple que l'on peut donner. Quand on parle d'électricité, on ne pense pas tout de suite à la chaise électrique. Or, la bombe atomique, c'est l'application de l'énergie nucléaire à peu près dans ses proportions. Donc, si on trouve de l'uranium dans l'Arctique ou dans les terres polaires...
Oui, c'est la guérison du cancer.
C'est la guérison du cancer, c'est surtout...
Ah non, c'est pas la guérison du cancer, permettez, pas encore.
Et là, pas encore.
Ne dites pas ça à nos auditeurs. Et là, de l'uranium, on en trouve dans le Haut-Katanga, on en trouve en Afrique, on en trouve en Tchécoslovaquie, on en trouve en Sibérie, on en trouve même à Madagascar. Alors vous comprenez, la bombe atomique et l'extrême nord, c'est tout de même assez faible.
Puis enfin, oui. Je suppose que l'extrême nord ne contient pas que de l'uranium.
Non, l'extrême nord ne contient pas de l'uranium, pas que de l'uranium. L'extrême nord est une possibilité de recherche scientifique et de trouver des solutions à des problèmes scientifiques, solutions qui peuvent être trouvées par exemple en une année dans l'Arctique et qui ne pourraient pas être trouvées après 10 ou 15 ans de recherche intensifiée dans nos zones tempérées.
André Labarthe.
D'autre part, quand on parle de l'extrême nord du point de vue stratégique, eh bien je crois qu'il est un grand facteur d'optimisme au point de vue paix. Car toutes les aventures qui ont été faites, toutes les expéditions qui ont été envoyées, ceux qui ont vu dans ces expéditions des signes avant-coureurs de grandes manœuvres générales pour une attaque brusquée de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est par l'extrême nord, je crois, ont dû être profondément déçus. Car les difficultés considérables qu'on a trouvées du point de vue technique, les difficultés considérables qu'on a trouvées du point de vue humain pour mettre debout ces expéditions, la souffrance des hommes, la non-adaptation des hommes à ces climats, les difficultés techniques des chenilles de tente, les difficultés techniques dont parlait tout à l'heure Pierre Gallois au point de vue aérien, les difficultés techniques au point de vue artillerie, tout cela amène le Grand Nord à être un avant-laboratoire, un pré-laboratoire, un laboratoire pilote d'études du grand froid, d'études des difficultés géographiques. Mais actuellement, imaginez que ce laboratoire devient un champ de manœuvre, comme le champ de manœuvre de Fontainebleau pour le tir des canons de 75, c'est une simple fumisterie. Et répandre ces idées-là dans le public, c'est amener les gens à se... cristalliser les quelques idées qu'ils peuvent avoir du point de vue politique mondial sur l'éventualité d'une guerre planétaire où les deux grands blocs, le bloc Amérique et le bloc Eurasie, se battraient avec des robots, avec des avions, avec des hommes robots, avec des machines robots, avec des tanks robots, dans une guerre qui est absolument impensable dans l'état actuel de la technique, qui sera peut-être pensable dans quelques dizaines d'années, ou peut-être dans 50 ou 100 ans, je n'en sais rien, mon imagination ne va pas jusque-là, mais actuellement, il n'y a aucun risque, et le dire au public, dire que le Grand Nord, chaque fois qu'on voit une manœuvre, une expédition partir, une expédition comme celle d'Émile Victor partir vers le Grand Nord, imaginez que ce sont les prémices d'une action offensive, c'est une erreur profonde, et faire croire ça au public, c'est absolument un crime actuellement. C'est forcer les gens à croire à la guerre, même quand ils n'ont pas la moindre idée d'une guerre technique.
Bien, je vous remercie infiniment, André Labarthe, d'avoir fait cette sortie en ce qui concerne...
Ah, c'est pas une sortie, c'est ma pensée.
Les expéditions arctiques, en effet, comme vous disiez, c'est un laboratoire et c'est surtout de ce point de vue-là qu'on peut et qu'on doit voir l'Arctique, car c'est surtout un laboratoire de recherche. C'est d'ailleurs dans ce sens que peut-être même des expéditions comme l'expédition Muskox ou Frigide ou autre, c'est surtout dans ce sens-là que les choses ont été faites. Il est bien possible que l'on utilise alors des moyens militaires, puisque ces moyens militaires sont aujourd'hui les moyens les plus faciles à avoir, mais les buts des recherches et leur application sont essentiellement scientifiques, et en particulier en ce qui concerne les expéditions d'une façon générale qui s'organisent aujourd'hui, elles sont d'un intérêt scientifique, et en ce qui concerne les expéditions françaises, uniquement d'un intérêt scientifique.
Je suis persuadé que les expéditions russes et les expéditions américaines procèdent de la même idée générale.
Elles ont d'ailleurs apporté un très grand bien-être aux populations indigènes. Oui. Soit pour le ravitaillement, soit pour le mode d'habillement, soit pour l'équipement en général.
La mode chez les Esquimaux.
Et
justement, je suis d'accord avec Louis Weiss à ce point de vue-là. Par exemple, dans l'Arctique soviétique, dans le Grand Nord sibérien, j'ai vu de mes propres yeux des cultures, des animaux qui sont élevés là-bas. Il y a des vaches d'une race spéciale, comme il y a un blé d'une catégorie spéciale, que le blé que l'on sème...
condensé.
Pas tout à fait, pas encore. Mais un blé qui pousse en 65 jours.
Dans et une, qui mûrit
dans une,
en 65
dans une,
jours.
Dans une terre qui est à peine dégelée, n'est-ce pas?
De telle sorte que ce toit du monde serait surtout un sous-sol, en somme.
Exact, le mot est valable.
Paul-Émile Victor.
Je crois que nous avons parlé beaucoup des questions économiques, des questions stratégiques, Nous avons à peine effleuré la question scientifique. Je voudrais y insister très peu, un peu conclure, si vous voulez, sur ce sujet, car c'est le point qui est le plus optimiste que l'on puisse tirer de tout cela. La recherche scientifique, en soi, est une recherche enrichissante. Quand il est possible de faire une recherche scientifique et qui ne soit qu'une recherche scientifique, c'est une base d'optimisme. Le point de vue de la France, je crois, dans ce domaine, est très net. La France n'a aucun intérêt stratégique dans l'Arctique, étant donné qu'elle n'a pas de terre dans l'Arctique. Elle n'a aucun intérêt de minerai non plus, puisqu'elle n'a pas de terre dans l'Arctique. Son seul intérêt est celui de la recherche scientifique, qui correspond parfaitement à la mission que la France a toujours eue dans le monde.
Nous espérons tous que vous allez remplir magnifiquement en partant l'an prochain avec votre expédition pour tâcher de faire à la France encore un petit peu plus de gloire scientifique.
Hein? Voilà une conclusion qui n'était pas voulue de moi.
Ah non, mais tout de même, elle est méritée.
Pierre Gallois, André Labarthe, Edmond Tranin, Paul-Émile Victor et Louise Weiss ont dit l'importance nouvelle du Grand Nord.
Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion française.
Nous rappelons que les opinions émises à La Tribune de Paris engagent la seule responsabilité de ceux qui les expriment.
C'était un numéro de la Tribune de Paris de Paul Guimard, consacré au Grand Nord, avec l'ingénieur et journaliste André Labarthe, les explorateurs Paul-Émile Victor et Edmond Tranin, et l'écrivaine et femme politique Louise Weiss. Première diffusion le 5 novembre 1947 sur la chaîne nationale.